7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on s'interroge sur une drôle de relation, celle de la presse et de ses usagers citoyens. La crise des gilets jaunes en France a laissé des mots, des images, journalopes, merdias, prostituées, des insultes, des agressions physiques aussi, et de nouveaux médias alternatifs pour répondre à une défiance généralisée. Dans de nombreux pays, à la faveur d'une élection, d'un conflit, d'une révolte, eh bien, les journalistes sont ciblés comme des désinformateurs, alors que les chaînes d'infos en continu enregistrent en même temps souvent leur meilleur score dans ces moments-là. Alors pourquoi aime-t-on détester les journalistes? Nous allons en discuter avec nos invités. Patrick Sauss, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à BFM TV depuis plus de 10 ans. Vous couvrez les conflits à l'étranger, tout comme le mouvement des Gilets jaunes en France. Pauline Adès-Mével, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable Union européenne et Balkans à l'ONG Reporters sans frontières. Arnaud Mercier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la presse, directeur des études à l'Institut français de presse qui est situé à l'Université Paris 2. Assas. Et puis, ironie du calendrier, aujourd'hui, l'équipe de 7 milliards de voisins aurait dû être dans l'avion à destination de Kigali pour donner la parole à de jeunes patrons de start-up rwandais. Vous voyez, rien de chaud bouillant, hein, a priori. Et pourtant, demande de visa presse refusée sans explication du Rwanda. Voilà pourquoi on est en direct et en même temps avec beaucoup de plaisir avec vous pour parler des journalistes aujourd'hui. Et chez vous, les voisins, quel est votre regard sur la presse, sur les journalistes? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages écrits également.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Allez, je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez les commenter à loisir. Patrick Sauss, Pauline Adès-Mével et Arnaud Mercier. Victor Amundu, qui est la capitale économique du Tchad, nous dit « Journaliste, c'est un métier noble. Ce sont les politiques qui sont hostiles aux journalistes. Ils craignent que les journalistes relaient mal l'information. Parfois, dans mon pays, les journalistes sont expulsés des cérémonies. » Patrick Sauss, c'est vrai qu'il y a eu une époque où l'ennemi des journalistes, c'était en tout et pour tous les politiques.
Ça l'est toujours.
Oui.
Ça l'est toujours. Et d'ailleurs, voilà, leur rôle quand même sera à définir et à observer à nouveau sur cette crise des gilets jaunes, puisque voilà, si on est là aussi, c'est
bien sûr, en tout cas
en France, c'est sur la crise des gilets jaunes. Et il y en a certains qui sont quand même comptables, notamment dans les extrêmes, sur la façon dont on est traité par la population.
Les politiques ont une influence, selon vous, quand ils parlent des journalistes dans les médias?
Bien sûr, mais ça peut être très rapide et ça date pas des gilets jaunes. J'ai quand même, en tout cas, nous, notre expérience à BFM TV sur la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 où il fait siffler les journalistes. Et du coup, on a, nous, nos propres journalistes, Thierry Arnault et Ruth Elkrief, qui sont fait cracher dessus, agressés, alors qu'ils étaient dans la salle. Donc ça date déjà de là. Et les menaces sont directes.
Rolf, à Kinshasa, en RDC, j'aurais aimé être journaliste, mais mon papa s'y est opposé. Un membre de sa famille a été assassiné à l'époque de Mobutu. Mon père qualifie ce métier de mort. Je pense que Pauline Adès-Mével, de l'ONG Reporters sans frontières, vous n'allez pas démentir.
Alors c'est un métier difficile, c'est clair. On publie chaque année à Reporters sans frontières un état des lieux de la liberté de la presse au moment du classement, avec des dégradations constantes, en fait, y compris dans l'Union européenne. On publie aussi un bilan des morts des détenus en fin d'année, qui est aussi consternant. Il y a une tendance, en fait, qui se manifeste clairement depuis quelques années. C'est le fait que, effectivement, même dans l'Union européenne, où a priori les journalistes sont plutôt mieux protégés qu'ailleurs, aujourd'hui ils subissent à peu près le même type d'attaque. D'autres formes en fait se manifestent, mais clairement ils sont devenus des ennemis. Et ça, vous parliez des politiques, la rhétorique des politiques y est pour beaucoup. Elle entretient un climat de haine, elle entretient un climat de suspicion à l'égard des journalistes.
Mohamed est à Conakry en Guinée. À mon avis, quand on est journaliste, il faut donner la parole à ceux qui doivent parler et non à ceux qui veulent parler. Il y a une sorte de monopolisation, nous dit Mohamed, de la parole dans les grands médias qui ont tendance à jouer le jeu des États. Abdoulaye est à Louga, au nord du Sénégal. Les journalistes ne sont pas objectifs, ils sont influencés par les patrons de presse qui, pour la plupart, ne recherchent que leurs intérêts personnels. Et j'en sais quelque chose à cette période électorale au Sénégal où la plupart des journalistes sont corrompus. C'est bien Abdoulaye qui le dit, hein. C'est évidemment pas nous. Et ceux qui refusent de l'être, nous dit Abdoulaye, c'est dommage. Je vous lis aussi le message de Nadi qui dit qu'il aime les émissions, l'on écoute des experts, on cite des faits en les situant dans l'histoire. Voilà, bien sûr vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Suivez-nous aussi bien sûr sur Twitter en direct.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Mais tout de suite, quelques points de vue qui n'ont en aucun cas valeur statistique, recueillis par Loan Nader à Paris.
J'en pense que du bien en fait. Je comprends même pas la question, on en a besoin.
Il y a quand même deux types de journalistes en France. Il y a un journaliste qui est assez proche des lobbies, on va dire, et un autre qui est plus d'investigation et qui est vraiment important et qu'on doit défendre au maximum.
J'ai un avis assez partagé. Je tombe pas dans le piège de sous prétexte qu'il y a en ce moment une affaire un peu compliquée de dire qu'ils sont tous pareils. C'est au cas par cas et que c'est pas parce que de temps en temps il y a des dérives qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. C'est ce que je pense.
On n'est pas forcément tout le temps sûr que l'information soit traitée de façon clairvoyante et vraiment sans arrière-pensée. Ça manque de transparence.
Je pourrais reprocher aux journalistes d'être entre guillemets contrôlés et de laisser imposer une censure sur les médias.
Je trouve en fait qu'on devrait avoir plus de diversité au niveau des journalistes. Je trouve qu'il n'y a pas assez de journalistes noirs, que ce soit à la télé ou à la radio.
L'information stricte et juste, c'est ce qui me plaît dans le journalisme. Et aujourd'hui, le journaliste a tendance à déraper, trop souvent.
Moi, ça me plairait bien, personnellement. Je trouve que c'est un beau métier, voilà.
C'est fondamental, c'est des très bonnes personnes qui nous informent et c'est très important d'informer.
C'est pratique pour se renseigner sur la vie de tous les jours. Au moins, ils font bien leur travail, ça c'est important.
Tu sais, je suis journaliste professionnel depuis 15 ans, je pense avoir le sens du titre.
Si tu avais vraiment le sens du titre, tu serais rédacteur en chef à ma place, coco.
7 milliards de voisins pour se parler.
Arnaud Mercier, alors c'est quoi cette relation « je t'aime moi non plus » entre les citoyens et les journalistes?
Moi, je pense que c'est une relation d'exigence parce que, effectivement, au cœur de la démocratie, il y a comme une machine dans la machinerie démocratique, il y a de l'huile dans les rouages et cette huile, c'est justement l'information dont les journalistes sont les premiers serviteurs, j'allais dire. Mais dans tout ce qu'on a entendu, je trouve qu'il y a une grosse différence et c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse, y compris dans une espèce d'évolution un peu historique, c'est qu'il y a une grosse différence entre faire des reproches sur la manière dont les journalistes traitent l'information. Il faut qu'un certain nombre d'auditeurs aient bien conscience que parfois, les discussions en interne au sein des rédactions sont parfois extrêmement cruelles et extrêmement dures entre eux. Hein. C'est-à-dire que les journalistes sont tous sauf des imbéciles et ils savent très bien parfois se rendre compte que ce qui est fait n'est peut-être pas tout à fait parfait du point de vue de la déontologie, du point de vue des moyens qu'on se donne pour faire ce que l'on voudrait faire, etc. Donc, je dis souvent en provoquant, je dis...
En tant qu'universitaire, hein, là.
Oui, oui, mais je le dis souvent sur un ton un peu provocateur, je dis, voilà, finalement, des fois, les conditions d'exercice du métier de journaliste font que ça devient un métier de con, mais comme c'est fait par des gens intelligents, ils le savent. Et donc, ils sont capables d'avoir ce recul critique vis-à-vis des choses. Simplement, il y a une grosse différence entre... avoir des exigences démocratiques, avoir des exigences vis-à-vis des journalistes du type vous affirmez que vous avez une déontologie, vous avez des règles, les avez-vous respectées à tel moment ou à tel autre? Ça fait partie du débat démocratique. Et il n'y a aucune raison que les journalistes soient exempts d'une critique possible. Hein. Et d'ailleurs, les journalistes aspirent eux-mêmes à pouvoir porter le fer et la critique vis-à-vis des acteurs politiques, des citoyens, de tout le monde. Donc, c'est donnant-donnant, il n'y a aucun problème. En revanche, là, le climat qui fait le sujet de l'émission, c'est complètement autre chose. On est sorti totalement de la légitime critique de l'action des journalistes de la manière dernière vers quelque chose qui est la détestation d'une profession vue comme un ensemble global avec les médias, comme s'il n'y avait pas de grande diversité des médias. Et là, on est dans quelque chose de très différent et qui est très liée, ça a été dit déjà, à une instrumentalisation politicienne.
La défiance et l'exigence que vous mentionnez, que vous mentionnez d'ailleurs, elle n'est pas propre au journalisme, elle est propre, enfin, elle traverse l'ensemble de la société et on la retrouve à l'égard de l'alimentation notamment, exactement. Sauf que effectivement, quoique, parfois, on peut aller jusqu'à aller menacer son boucher,
mais bien sûr.
Mais pas avec probablement la même ampleur, Patrick Sauce.
Oui, moi c'est l'exemple que je prends depuis le début de cette crise, quand les gens nous disent « mais on peut vous critiquer ». Non mais attendez, lorsque vous n'êtes pas content de votre pain, vous avez droit de sortir de la boulangerie et de dire « c'est le pire pain que j'ai jamais eu, je veux plus en manger ». Vous avez même le droit de faire le tour du village ou de la ville pour dire « n'allez pas dans cette boulangerie ». Mais vous n'avez pas le droit, et d'ailleurs vous ne le faites pas, on n'a jamais d'exemple, de casser la figure du boulanger. Je voudrais rebondir, moi, sur le courrier d'Abdoulaye que vous avez cité. Il a raison, en grande partie. Je ne suis pas objectif, moi, et mon patron cherche à faire du profit. Sauf que je ne suis pas objectif, c'est d'ailleurs le premier mot qu'on raille quand on arrive en école de journalisme. On nous demande d'être honnête. Et évidemment, je ne suis pas fait en marbre, moi. Donc, je vais arriver avec mes préjugés, que je vais essayer de combattre. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime ce métier. Et je vais essayer d'être surtout honnête sur ce que je vois et essayer de transcrire. Après, je suis, moi, dans une entreprise privée. C'est normal que mon patron cherche à faire du profit. Ce n'est pas pour ça qu'il va y avoir un lien. Mon patron, je l'ai vu deux fois. Depuis qu'il l'a racheté, c'est un patron franco-israélien. Il fait ses affaires, il en a beaucoup d'autres. J'ai jamais eu d'appel là-dessus. Et surtout, comme vous disiez, on est assez indépendant nous-mêmes dans notre rédaction. On arrive à se chiffonner assez régulièrement, surtout en ce moment. Et ce qui compte, c'est que notre article il soit publié comme on a voulu le publier, ou que je puisse faire mon duplex ou mon reportage comme je veux. Et c'est le cas.
Cette presse aux mains des lobbies, cette image réelle ou fantasmée, on la retrouve un peu partout, Paulina Desmevel.
Oui, absolument. Le manque de pluralisme, ça c'est vraiment quelque chose que Reporters sans frontières dénonce régulièrement. Alors en France, mais pas seulement en France, bien évidemment, quand on regarde l'Europe centrale, il y a des phénomènes de concentration extrêmement aigus qui sont de plus en plus forts et qui justement mettent à mal la diversité des médias, qui ne sont pas forcément aussi transparents que ça peut l'être ici. Ça, probablement, dans certains pays, ça contribue aussi à faire douter de la justesse de l'information, de la fiabilité et à mettre en doute la capacité des journalistes à être aussi honnêtes et objectifs qu'on le souhaiterait. Je crois que c'est très important. Vous parliez, moi je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Arnaud Mercier. On parle de critique et d'exigence. Oui, effectivement, on est tous d'accord pour dire que les journalistes peuvent être critiqués jusqu'à un certain degré. D'ailleurs, c'est même très sain parce que ça fait émaner un débat. Ils peuvent être critiqués très loin, mais le niveau d'exigence, ils l'ont. Et je crois que le plus difficile, c'est justement de baisser les bras. Quand on voit le travail de sable de la démocratie à travers toute cette attaque des journalistes, il faut vraiment s'élever, s'insurger, car en fait, on n'est pas au putsch, mais voilà, c'est une façon politique d'amener doucement vers des renversements, vers des situation politique extrêmement dangereuse.
Est-ce qu'on observe des mouvements de haine, d'agressivité qui traversent toute l'Union européenne à l'heure actuelle, à l'égard des journalistes, de la presse?
Absolument.
Comme on a pu le voir là, avec le mouvement des Gilets jaunes?
Absolument. Les mouvements de détestation prennent des formes différentes. Il y a les pays des Balkans, et puis il y a l'Europe de l'Est, avec un phénomène qui se déplace vers l'Ouest. Cette année, par exemple, en Autriche, qui était un pays où bon, les journalistes, notamment la télévision publique, travaillaient dans des bonnes conditions. On voit vraiment à plusieurs reprises des attaques de la coalition au pouvoir et notamment du FPO contre les journalistes, des attaques violentes, des attaques verbales quand même très très ciblées, qui mettent en doute à la fois l'objectivité des journalistes mais aussi ce que représente un média public. Et douter d'un média public et de son objectivité, ça va très très loin. Après, il y a effectivement des attaques venues des leaders politique en Slovaquie, en République tchèque. Je vous rappelle que c'est en République tchèque que le président Miloš Zeman est quand même arrivé à une conférence de presse avec une fausse Kalachnikov sur laquelle était inscrit « pour les journalistes », quand le premier ministre, l'ex-premier ministre slovaque, les traite de prostituées anti-slovaques parce qu'ils sortent des rapports. On le voit en Bulgarie, on le voit évidemment en Hongrie avec Viktor Orban et le Fidesz. Et puis, alors il faut rappeler l'exemple assez dramatique, la situation en Pologne, avec l'assassinat du maire de Gdansk, qui a été très très alimenté par un discours extrêmement haineux à la télévision publique TVP, qui est elle-même sous le contrôle du parti au pouvoir. Donc des formes différentes, mais des formes qui se propagent et qui font peur. Hein.
Est-ce qu'en France, Patrick Sauss, les Gilets jaunes, ça a vraiment marqué un tournant dans la façon dont vous ressentez la défiance vis-à-vis de vous en tant que journaliste?
Je crois, parce qu'on a eu quand même un certain nombre de soubresauts, moi en tout cas à 10 ans sur BFM TV, qui est un média particulier parce qu'on est assez souvent en direct et puis on est souvent vraiment sur le terrain et on ressent très vite comment ça se passe. Il y a eu des moments difficiles, je me souviens notamment de la manif pour tous, c'était pas facile de travailler, on s'est fait courser, je veux dire, dans la rue, il y a eu des agressions aussi, heureusement qu'il fallait compter sur les forces de l'ordre, mais alors, les réseaux sociaux ont beaucoup fait.
D'ailleurs, les gens étaient très discrédités par la manif pour tous, donc ils s'opposaient à la loi permettant le mariage pour tous, et en même temps, ces manifestations étaient très très relayées dans la presse.
Oui, et je dirais l'autre camp nous l'a beaucoup reproché, c'est-à-dire les gens qui étaient pour le mariage pour tous, nous disaient mais vous en faites beaucoup trop, sauf qu'on était dans la culture de l'immédiateté, ce qui fait que s'il y avait un dimanche avec des dizaines de milliers de personnes contre le mariage pour tous, on le couvrait, et puis en fait c'était le tour de l'autre camp une semaine plus tard, et on se faisait, on recevait le reproche aussi. Sauf qu'il y avait, et pourtant c'est pas si loin ça de nous, mais il y avait déjà un rôle moindre de la part des réseaux sociaux. Là, ça a changé beaucoup de choses. Ça.
La haine s'est cristallisée sur votre média, votre chaîne de télévision, même si elle est diffuse partout. Pourquoi ?
Alors, il y a la réponse gentille de nos confrères, notamment des autres chaînes d'infos en continu, qui nous disent, mais vous savez, moi je suis à LCI, si LCI était devant, c'est LCI qui prendrait. Et CNews nous dit la même chose. Et pour le reste, il y a une relation...
En termes d'audience, on est bien d'accord.
Oui, en termes d'audience. Et il y a une relation, je crois, quand je discute ou quand j'arrive à discuter, c'est un peu plus facile maintenant avec des Gilets jaunes, assez schizophrénique à notre média. Le nombre de personnes que j'entends qui me disent, écoutez, ça fait 10 ans que j'écoute BFM TV, 24 heures sur 24 ou presque, c'est vraiment nul, mais vous racontez vraiment des bêtises. On parlait de la situation dans le reste de l'Union Européenne et dans d'autres pays où sur la télécommande, il y a un bouton ou deux. Vous avez le choix entre une chaîne gouvernementale et une chaîne tenue par un oligarque, on a pu le voir dans certains pays de l'Est notamment. Une concentration des médias, c'est aussi quelque chose de grave qui se passe aux États-Unis en ce moment. Vous avez la chance en France d'avoir l'un des plus grands kiosques journaux possible. Vous avez une télécommande avec le choix de chaînes, de radios. Mais pourquoi vous ne changez pas, encore une fois ?
Non, c'est ce qu'on conseille aux consommateurs dans l'alimentation, d'ailleurs. Si vous n'aimez pas, n'achetez pas et faites valoir votre pouvoir en n'écoutant pas, en ne regardant pas. Effectivement, vous parliez de schizophrénie. En tout cas, il y a une forme de paradoxe parce que cette chaîne-là, BFM TV, elle a été créée pour une audience assez populaire. Pas dans le mauvais sens du terme, d'ailleurs. Mais comment vous expliquer que cette audience se soit retournée contre vous, finalement ?
Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. En ce moment, on reçoit beaucoup de critiques des deux côtés, soit BFM Macron, soit BFM Gilets jaunes, et c'est assez difficile. Alors jusqu'ici, moi, quand le lundi on me disait « vous êtes une chaîne de gauche » et le mardi on me disait « vous êtes une chaîne de droite », je dis c'est magnifique, c'est une vraie preuve d'indépendance. Là, je me pose beaucoup plus de questions sur la façon dont...
Vous avez été victime d'une agression lors d'une des manifestations...
Le 12 janvier.
Le 12 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Eh bien, je couvrais un rassemblement de Gilets jaunes à Bourges, dans le centre de la France, qui était censé être la grande manifestation de ce jour-là, de ce 12 janvier, en plus de celle de Paris. Une manifestation qui avait une bonne physionomie, qui s'annonçait très pacifique. Et encore une fois, on savait que le contexte pouvait être dangereux, mais comme on essaye de bien faire notre métier, on sentait que l'ambiance, cette fois, allait être assez pacifique. Donc on disait, tiens, on va peut-être pouvoir enfin discuter. Toujours pas sortir les micros BFM, ça on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais...
Pas de micro siglé, donc.
Siglé, hein. BFM, voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai un visage qui revient assez souvent sur l'antenne. C'est un premier problème pour moi pour le couvrir, mais surtout dans ces... 3-4 000 personnes qui étaient en train de se rassembler, et bien on a vu qu'il y avait une douzaine de gilets jaunes, j'irais même plus loin que ça, ce qu'on appelle les street medics, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de réparer un petit peu les bobos, de soigner lorsqu'il y a des affrontements avec les forces de l'ordre. C'était donc des street medics avec leur petite croix rouge sur le casque ou sur les casquettes, qui ont commencé à faire le tour de la place sur laquelle les gilets jaunes étaient rassemblés à la recherche de BFM TV. C'est des choses que j'ai vues dans d'autres pays en guerre ou des pays qu'on pourrait qualifier de dictature et que j'ai vues là, sur cette place de Bourges, préfecture du Cher, avec une demande de carte de presse, c'est-à-dire des contrôles d'identité. Je rappelle que si vous n'êtes pas officier de police judiciaire, c'est tout à fait interdit, c'est même gravement répréhensible.
On est d'accord qu'il s'agissait en fait de volontaires internes à la manifestation.
Oui, oui.
Hein, on est d'accord.
Et je dis bien des gilets jaunes et pas les gilets jaunes. C'est sans doute une prise de position spontanée et pas quelque chose d'organisé. Mais il se trouve qu'ils regardaient ou ils avaient sur leur smartphone l'antenne de BFM TV et ils essayaient de voir d'où les images avaient été prises. Et ils ont commencé à interroger tous les journalistes, en tout cas ceux qui avaient une caméra, avec des contrôles d'identité. Ils sont tombés sur nous très rapidement, ils ont reconnu mon visage et ils nous ont demandé de partir, mais pas seulement. Ils ont commencé à nous escorter pour être bien sûr qu'on quitterait non pas la manifestation, non pas le centre-ville, mais la ville de Bourges. Et ils voulaient nous amener à notre voiture et si on n'avait pas de voiture, à la gare de Bourges, attendre qu'on soit dans le train pour Paris et partir.
En toute illégalité.
En toute illégalité, évidemment. Ce qui m'a pas forcément choqué sur le coup, mais ensuite, parce que ça a été diffusé en live sur Facebook, qui est très largement partagé, eh bien on a commencé à entendre un chant qui est le chant de la quenelle de Dieudonné, qui est un chant un petit peu codé, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas tout de suite l'attaquer au niveau judiciaire sur la question antisémite, mais on a tous bien compris ce qui se passait. Et là aussi, ça ne m'a pas choqué parce qu'on était le 12 janvier. Moi, ce qui me choquait plus, c'était le contrôle d'identité. Et puis, on sait ce qui se passe depuis quelques semaines. Ça a pris beaucoup d'importance là aussi et on peut parler d'agression antisémite.
Vous travaillez systématiquement maintenant avec ce qu'on pourrait appeler un garde du corps ou pas ?
Oh, c'est un garde du corps. On est trois et on a trois gardes du corps qui ne sont pas forcément là pour faire la castagne et jamais d'ailleurs.
C'est arrivé à quel moment ça, l'arrivée des gardes du corps pour couvrir une manifestation dans un pays comme la France ?
Oui,
à l'étranger, choses... dans des pays dangereux, au moment de conflit, on
je
parle
n'ai
de
pas
fixeur.
De garde du corps. Et c'est surtout pas le rôle du fixeur de faire le garde du corps. Il est là pour parlementer, et c'est bien plus que simplement faire de la traduction. Évidemment, c'est quelqu'un qui connaît le pays, c'est un job indispensable, le fixeur, mais jamais
quand
garde du corps.
Quand vous couvrez l'Ukraine, vous n'avez pas de garde du corps ?
Jamais, non.
Vous en avez pour les gilets jaunes ?
J'en ai pour les gilets jaunes. C'est terrible, hein. J'ai une armoire à glace pour moi, qui on a en plus affaire vraiment à des grands professionnels qui sont pas là absolument pour montrer les muscles, mais pour sentir les choses quand évidemment moi j'essaie d'être concentré sur mon métier.
Arnaud, je voudrais rebondir sur l'affaire de Bourges. Ce qui est le plus stupéfiant dans l'histoire, c'est la jeune fille qui filme sur le Facebook Live la reconduite des journalistes avec une candeur, mais incroyable, en disant « Regardez, tout ça se fait sans violence, etc. » Parce que vous n'avez pas été tabassé, d'accord ? Mais sans se rendre compte de l'incroyable violence qu'est la scène. C'est-à-dire, ce qui me stupéfie, c'est la parfaite bonne conscience avec laquelle l'idée d'éconduire des journalistes, de...
Autoriser de filmer sur la voie publique,
absolument.
Bien sûr.
De les interdire d'exercer leur métier.
D'agir comme une milice, parce que c'est ça la vérité.
C'est difficile, encore une fois, de choisir ces mots, hein, parce qu'on a tellement utilisé dérive fascisante, milice, mais il y a des fois où on est vraiment obligé d'utiliser ce terme.
Quand vous êtes des gens privés et que vous vous autorisez à faire des actions de la force publique de type expulsion, reconduite, etc., machin, un contrôle d'eux, ça s'appelle une milice. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et elle le dit avec une candeur
pour que nos
incroyable.
Auditeurs comprennent bien. On est bien d'accord que ça n'est pas la même chose que d'expulser un journaliste sur un terrain privé, par exemple, qui voudrait filmer, je ne sais pas,
une
entreprise.
Réunion syndicale. Voilà. On est en train de suivre un conflit social dans une grande entreprise. Moi, j'ai fait, par exemple, pour Peugeot, PSA, à Aulnay, où la fermeture d'une usine. Quand on est devant l'usine, on peut discuter. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle juste un tour d'image, c'est-à-dire que les syndicats vont nous autoriser à faire quelques images. Et puis ensuite, attendez, on discute entre nous, on est dans le local syndical, mais il n'y a aucun problème. Et on n'appelle absolument pas ça de la censure. On en rediscutera après. Voilà.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. On parle de cette curieuse relation entre les usagers, le public, comme on dit, hein, et la presse et les journalistes. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Ambroise nous appelle de région parisienne, Cachan très précisément. Bonjour Ambroise.
Oui, bonjour.
Vous êtes originaire du Cameroun, c'est ce que vous avez dit au Standard.
Oui.
Et vous voulez vous exprimer sur ce que vous suivez depuis plusieurs mois dans les médias en France ?
Oui, effectivement. En fait, je regarde avec beaucoup d'inquiétude la manière dont les gilets jaunes ou une certaine partie des gilets jaunes se comportent vis-à-vis des journalistes. Et je suis vraiment choqué parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est clair que le journalisme, ça fait 28 ans que je suis en France, je n'ai pas vu un seul instant ou entendu. J'écoute RFI à longueur de journée et je n'ai pas entendu un seul instant un journaliste de RFI s'exprimer de manière partisane. Allô ?
Oui, oui, on vous écoute, Ambroise.
Voilà. Donc, j'ai suivi avec beaucoup de stupéfaction la manière dont les journalistes ont été traités par les Gilets jaunes. Parce que ces gens qui filmaient en direct pour prétendre qu'ils donnaient une information en direct sont des partisans. J'ai regardé vraiment avec beaucoup de minutie sur les télévisions. Mmh. J'ai écouté RFI et plus d'autres radios. Mmh. Je n'ai pas vu ou perçu un seul instant le comportement d'un seul journaliste qui était contre les Gilets jaunes ou partisan du gouvernement. Je trouve ça scandaleux que des gens se permettent de dire de trouver que des journalistes sont partisans. Si il y a une presse partisane quand il s'agit des partis politiques ou de prendre position sur tel ou tel événement quand on a une couleur politique, mais je n'ai pas, avec le problème des Gilets jaunes jusqu'à ce jour, vu ou aperçu un seul instant, la non-objectivité des journalistes quand ils ont parlé de la crise, de ce qu'on appelle la crise des Gilets jaunes. Mmh. Et je suis vraiment choqué de la manière dont les journalistes se sont traités. On l'a vu ailleurs, on le voit ailleurs. Mais même dans un pays comme le Cameroun que j'ai quitté il y a quelques années et que dans lequel je continue de me rendre parce que c'est mon pays d'origine, je ne vois plus ce genre d'agissement. La population ne tape pas sur les journalistes, bien au contraire, les journalistes sont là pour nous éclairer. Et ils sont quand même sur RFI, quand on écoute RFI le matin ou dans la journée, les spécialistes qui viennent nous éclairer sur des sujets dont nous n'avons pas assez de moyens pour comprendre. Les journalistes sont objectifs.
Oui.
Je crois qu'il faut qu'on arrête et que les hommes politiques, quand ils veulent bien jouer le jeu, ils sont du côté des journalistes. Le jour où un journaliste se trouve que lui pose une question un peu de travers, ce journaliste devient immédiatement l'ennemi de l'homme politique. Je trouve que c'est vraiment lamentable qu'on joue à ce jeu-là.
Alors, vous parliez d'objectivité. Merci beaucoup, Ambroise, de nous avoir livré votre ressenti. Patrick Sauce, vous nous disiez au début de l'émission, il faut bien avoir en tête pour tout le monde que l'objectivité n'existe pas, bien évidemment. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a en permanence ce soupçon, Paulina Desmevel, de savoir, en fait, pour qui travailleraient les journalistes, pour qui rouleraient les journalistes, d'une certaine façon, comme s'ils avaient tous, eux-mêmes, en leur fort intérieur, consciemment ou inconsciemment, des conviction chevillée au corps. On a des journalistes qui n'ont pas spécifiquement de conviction chevillée au corps.
Absolument. Ce qui est frappant dans le témoignage d'Ambroise et ce qui est frappant aussi quand on écoute et quand on regarde ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, c'est que non seulement les journalistes n'ont pas nécessairement des convictions, en revanche, les auditeurs...
C'est d'informer le plus honnêtement possible, évidemment.
Bien évidemment. En revanche, les auditeurs, les lecteurs ont des attentes et c'est ce qu'ils ont exprimé au moment de la croissance du mouvement des Gilets jaunes. En fait, plusieurs fois, ça s'est stigmatisé sur BFM particulièrement, mais ça s'est répandu ailleurs. Il y avait des attentes. Ce média qui était en effet très apprécié d'une frange de la population et qui était représentatif ne correspond plus à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils voudraient que BFM dise. Le discours n'étant pas le bon, et ça se traduit non seulement par une détestation dans les actes, mais aussi par la création d'autres vecteurs d'information comme ils l'ont fait.
Ce que vous reproche quand même beaucoup de gens pour BFM TV, c'est finalement de ne pas se reconnaître dans leur miroir, dans le miroir que vous leur tendez, et de ce que vous montrez des gilets jaunes d'une certaine manière.
Alors, je voudrais quand même agrandir ce miroir, parce qu'il y a quand même deux types de victimes depuis le début de ce mouvement. C'est les chaînes infos en continu, parce qu'il ne faut pas oublier que les copains d'LCI se sont fait aussi agresser à Rouen. Et je l'ai vu, et notamment à Bourges, la presse quotidienne régionale et les radios locales, c'est quand même très grave ce qui se passe. Quand la Voix du Nord est empêchée de sortir son journal, c'est difficile. Quand moi, à Bourges, je discute avec mon collègue du Berry Républicain, qui est le journal local à Bourges, qui me dit, voilà, moi j'ai reçu comme consigne de sortir sans calepin, sans crayon et sans appareil photo, parce que je sais que je vais me faire attraper par les gilets jaunes.
Et vous ne mentionnez pas les politiques, mais les députés aussi se sont fait agresser, ce qui est tout à fait inédit dans l'histoire.
Je ne pense pas qu'un responsable syndical connu serait bienvenu dans un cortège des gilets jaunes.
Oui, alors deux choses. Un, c'est très important ce qui vient d'être dit sur la presse locale, parce que pendant longtemps, sur la critique des journalistes, on faisait un distinguo entre la presse nationale, parce que ils sont à Paris, ils sont forcément déconnectés de la réalité des vrais gens, voilà,
c'est
des bobos, la gauchiasse, enfin il y a des tas de trucs, voilà. Et puis il y avait quand même la presse locale de proximité, les gens se connaissent, on connaît notre journaliste, bon, on peut l'apprécier, etc. Là, on voit qu'il y a un amalgame complet entre tous les types de journalistes, puisque il y a eu La Voix du Nord, mais il y a eu les dernières nouvelles d'Alsace, dernières nouvelles d'Alsace, Ouest-France, etc. Il y a eu plein d'intimidations et de volonté même de refuser de laisser se diffuser un journal. Donc là, on voit que la rupture, elle est beaucoup plus forte parce qu'on change. Et par ailleurs, effectivement, moi, je relirais ça. Alors, il y a aussi deux autres éléments plus politiques. Le premier point, c'est que, en effet, ce climat de violence verbale, qui sont montés depuis des années maintenant dans le discours politique et sur les réseaux sociaux, qui jouent un rôle très important pour effectivement, j'allais dire, laisser s'exprimer le pire de ce que peut être des fois l'être humain. Bon, on voit bien que ce climat ne touche pas que les journalistes. Et ce n'est pas pour relativiser le propos que je contiens ici, mais on voit bien qu'il y a une sorte de défiance vis-à-vis, moi, de ce que j'appelle les sachants. C'est-à-dire ceux qui sont supposés avoir un accès légitime à la parole publique et à savoir. Donc les politiques, les experts. Vous avez par exemple un baromètre dit de la confiance fait par le CIVIPOV, le Centre d'études de sciences politiques de Sciences Po à Paris. Ils ont un baromètre annuel de la confiance. De fait, ça devrait s'appeler un baromètre de la défiance parce qu'ils testent tout un tas de choses. 32% des gens croient aux statistiques du chômage. 23% croient aux statistiques sur l'immigration.
C'est-à-dire que les autres n'y croient pas. La majorité n'y croit pas.
Donc il y a une défiance très, très générale.
En même temps, puisque vous citez le baromètre, il y a le 32e baromètre de la confiance des Français dans les médias réalisé Kantar pour le journal La Croix, qui a été réalisé en fait début janvier, qui a été publié la semaine dernière par le journal. Alors évidemment, tous les médias en prennent pour leur grade, même la radio, qui reste quand même en tête de la confiance. D'ailleurs, pourquoi plus que la télévision, dans le fond. Mais évidemment, tout le monde est en baisse. Mais il y a quand même 72%, si on additionne les chiffres, de gens qui estiment que les critiques et l'agressivité à l'égard des journalistes n'étaient pas vraiment ou pas du tout justifiées. Donc, il y a de la défiance, mais en même temps, n'allons pas au point de l'agressivité, de l'insulte, etc.
Oui, bien sûr. En revanche, il faut écouter ce que les gens qui sont prêts à l'insulte et à l'injure et à l'agressivité disent. Et ce qui est très intéressant chez le mouvement des Gilets jaunes, c'est que précisément, ils considèrent que les journalistes font partie d'une certaine façon des élites sociales et ils ont un reproche à leur faire qui justifie, selon eux, leur agressivité. Ce reproche, c'est que ils considèrent qu'ils ont été invisibles dans la société française, que les politiques ne se sont pas intéressés à eux, que leur situation n'intéressait personne, etc. Et ce, d'autant plus qu'un certain nombre, justement, ne croyant plus à la politique, évidemment, n'allaient plus voter. Alors, s'ils votent plus, finalement, ça intéresse moins des hommes politiques en campagne, ça c'est sûr. Bon. Donc, ils considèrent qu'ils ont été invisibles. Et ils rendent en partie responsables les médias de cette invisibilisation en disant « Vous n'avez pas à parler de nous !» Donc évidemment, les politiques ne s'intéressent pas à nous. Donc du coup, ce n'est plus seulement un une critique, ça devient un reproche, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les médias ont participé à leur situation sociale et ça justifie selon eux du ressentiment, ce que certains traduisent après en forme d'agressivité.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, défiance, méfiance, haine à l'égard des journalistes et de la presse. Qu'en est-il chez vous? Quel est votre ressenti? On vous donne la parole. René nous appelle de Paris. Bonjour René.
Bonjour, voilà, je vous appelle parce que début décembre, j'ai participé à la manifestation pour la défense du climat, la journée mondiale du climat. Oui. Il y avait des dizaines de milliers de personnes à Paris qui manifestaient et il y avait des gens de tous âges, des jeunes, des vieux, des personnes avec leurs poussettes, leurs bébés, etc. Et nous avons, beaucoup de gens ont fait la réflexion pendant la manif. Nous n'avons vu aucun journaliste, il n'y avait d'ailleurs pas de policiers, il n'y avait pas de violence, la manif était très calme et beaucoup ont eu, comme moi, ont eu le sentiment que les journalistes, parce que c'était en même temps les Gilets jaunes d'un samedi, que les journalistes étaient là où il y a le sensationnalisme, là où il y a la bagarre.
Ça se passait bien, donc pas de journalistes, c'est votre interprétation. Hein. En tout cas, c'est ce que vous avez ressenti et observé, René, hein, si j'ai bien compris. Alors Patrick Sauss, la marche pour le climat.
Oui, on a déjà eu ça plusieurs fois. Je me souviens aussi, pour revenir un peu sur la manif pour tous et sur le mariage pour tous, une énorme manifestation pour le mariage pour tous, qui était extrêmement pacifique, avec un message très fort, et qu'on n'a quasiment pas diffusé, parce que c'était l'arrivée, si c'était du Vendée Globe, au moins d'un trophée Jules Verne, c'était de la voile. Et là aussi, il y a eu un choix éditorial, c'était peut-être le deuxième ou troisième samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Et oui, elle a été très forte, cette manifestation pour le climat. Et c'est bien d'ailleurs une manifestation pour et pas une manifestation contre.
C'est vrai que quand on interroge le public, les téléspectateurs, les citoyens, les usagers de la presse, quand on leur demande est-ce qu'il y a des sujets qui sont trop traités, d'autres pas assez, etc. Ce qui en ressort là, du baromètre de la confiance des Français dans les médias réalisé par Kantar pour le journal La Croix, c'est qu'en gros ils disent moins de Benalla, un peu plus de climat quand même.
Alors après, je vais vous faire une réponse extrêmement cynique. Il suffit de regarder les audiences pour montrer que il y a ce que les gens déclarent et ce que les gens regardent vraiment. C'est comme quand les gens vous disent « Moi, ma chaîne de télévision, c'est Arte. » Et puis c'est TF1 qui est largement en avance. Ça, c'est la réponse cynique. L'autre réponse, c'est oui. Mais vous savez, nous aussi, on en a un petit peu marre de parler de Gilets jaunes sur le terrain. C'est un peu difficile. Et Benalla, on aimerait bien passer à autre chose. Moi, hier, je présentais une émission sur BFM TV qui était consacrée au sommet sur le Vatican. Et c'est en préparant cette émission que je me suis rendu compte qu'il y avait une commission indépendante, donc sans homme d'église, qui avait été créée pour recueillir la parole des victimes. Je trouvais ça très important, sauf que cette commission, qui a été créée avec vraiment des sommités, ça va être quelque chose de très important, elle a été créée fin novembre. On n'en a jamais parlé parce qu'il y avait les Gilets jaunes. Et évidemment, on passe à côté d'énormément d'actualités.
Pauline Hadès-Mével.
Alors, pour rebondir sur ce que disait René, oui, effectivement, ces manifestations pour le climat qui sont déroulées début décembre, c'est-à-dire au même moment qu'un troisième rassemblement Gilets jaunes, ont été peu couverts. Mais en fait, ce qui a primé, et ça, c'est vraiment l'éditorial qui prime à ce moment-là, c'est surtout que cette manifestation a pu se tenir malgré un précédent samedi de violence par les manifestants gilets jaunes. Donc elle a pu se tenir, rassembler du monde. Voilà, l'information qui a primé ce jour-là, c'était cela. Effectivement, il n'y avait pas de violence. Je crois que là, pour le coup, le journaliste était vraiment en fait dans son droit de ne rapporter que ce qui était positif. Cette manifestation existait.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On retourne au standard parce qu'on a pas mal de gens qui veulent témoigner, donner leur regard sur leur relation avec la presse. Daniel est en ligne avec nous de N'Djamena au Tchad. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu, vous avez la parole, on vous écoute.
Oui, effectivement, sur les critiques des journalistes, j'avais réagi.
Oui.
Moi, particulièrement, ces derniers temps, je déteste beaucoup certains des journalistes par leur façon de faire. Parce que ce métier, c'est comme un métier. Il y a un juge, celui qui est à qui de faire ça sincèrement, c'est presque les mêmes choses. Mais de nos jours, ils servent des tiers personnes comme les hommes au pouvoir. Les réalités de la société n'est pas dévoilée parce qu'on a peur du pouvoir en sur place. Dès lors, ça ne donne plus de bonnes images à ce métier. Et sur ce point, la population méprisée qui ne reçoit rien comme de la vérité de ce qui devait au moins se porter ou leur voix, pousse certaines certaines personnes-là à détester le rôle que ces journalistes jouent.
Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas confiance dans les médias de votre pays?
Moi, effectivement, je vais vous donner un exemple édifiant. C'est juste ça, là, ça me choque aujourd'hui. J'étais à l'université lors d'une manifestation. Un policier a tiré à vue tout portant sur un étudiant qui manifestait. J'avais un ami qui était à la radio, à la télévision nationale. C'était un caméraman. Il a pris les photos. Mais ces photos ont été rédigées avant qu'on ne parte à la publication. Ça signifie que les images réelles ont été omises.
Merci Daniel de nous avoir appelé. Je crois qu'on a bien compris ce que vous décrivez, hein, dans des pays où effectivement la liberté de la presse est très compliquée, où l'ONG d'ailleurs Reporters sans frontières fait un travail très minutieux pour recenser, pour lister, pour documenter aussi ces empêchements de travailler normalement.
Absolument. Je crois que, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique par exemple, Reporters sans frontières à plusieurs moments a dénoncé la situation. Par exemple en Ouganda ou en Afrique du Sud, où des leaders politiques insultent les journalistes et entretiennent ce climat. Donc effectivement, ce que Daniel raconte, c'est effectivement une défiance à l'égard des journalistes et à l'égard de la profession, la façon, la déontologie, qui est aussi très très confortée par des leaders politiques.
Boubacar, vous nous appelez de... Non, on l'a plus. Bon, on l'a perdu. Alors, on l'avait en ligne. Apparemment, il y avait un petit problème de ligne téléphonique. Mais pour revenir au paradoxe dans les relations des usagers, des citoyens avec la presse. Aujourd'hui, on a vraiment, c'est le règne du direct, hein, et c'est ce qui a fait la force de BFM TV, mais c'est aussi maintenant ce qui fait la force des médias alternatifs, hein, que ce soit des médias d'ailleurs lancés par les Gilets jaunes, mais aussi des médias, on va dire, plus classiques dans leur vision de médias alternatifs comme Brut, c'est de filmer en continu et de diffuser dans le même moment. Finalement, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas pris au piège de votre propre direct dans une chaîne comme BFM TV, alors que il y a aussi une demande de mise en contextualisation, de recul. C'est vrai qu'on vous demande tout et son contraire.
On nous demande tout et son contraire. Alors, je voudrais quand même revenir sur ces nouveaux médias qui sont plébiscités et surtout qui sont considérés comme objectifs. Mot qu'on va vraiment définitivement barrer de ce métier de journaliste. Honnêteté. Lorsqu'on vous dit, voilà, moi je vais allumer mon téléphone portable et je vais le filmer sans commentaire et absolument dans la longueur, il n'y aura pas de coupe parce que c'est ce qu'on nous reproche aussi de découper. Oui, sauf que si vous avez décidé de tourner votre portable vers la droite et non pas vers la gauche, évidemment, c'est un choix éditorial. Et ça, c'est pas un grand mot de journaliste. C'est même vous, Gilets jaunes, si vous avez choisi de montrer ça, si vous n'êtes pas allé de l'autre côté, du côté des forces de l'ordre, et si vous avez choisi un endroit, vous n'avez pas choisi un autre et vous faites un choix éditorial. Et faire un choix éditorial, ce n'est pas être objectif. C'est une honnêteté, mais ce n'est pas être objectif.
Mais sur cette obsession du média anti-système, d'ailleurs qu'on peut retrouver dans la sphère politique aussi, d'où ça vient finalement ça?
Bah, ça vient alors de loin, au sens où il y a toujours eu un regard critique vis-à-vis des médias, et dans l'histoire de la France et de tas d'autres pays, il y a des phases, il y a des hauts, il y a des bas. Mais là, en l'occurrence, ça vient aussi d'une forme très particulière de critique, c'est la politisation de la critique. Et vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on disait, il y a concurrence d'événements, ce qui est un problème journalistique.
Qui est aussi vieux que le journalisme.
Qui est aussi vieux que le journalisme. Qu'est-ce qu'on met en une? Qu'est-ce qu'on met d'abord? Enfin, etc. Voilà. Eh bien, vous avez la politisation de la critique, ça devient, c'est un complot, ils ont choisi, c'est parce que, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les gens considèrent que, non pas la manière dont les journalistes travaillent, mais ils vont considérer les effets que ça peut avoir des choix qu'ils font. Et comme les choix leur sont négatifs, ils considèrent que c'est donc une prise de position politique de la part des journalistes, ce qui n'est pas du tout le cas. Et cette politisation, elle a été amenée il y a déjà un bon moment. Et on pourrait même la dater très très précisément dans l'ère contemporaine. Si vous voulez, tout part du Watergate. Je vais le faire en deux minutes, mais le Watergate, c'est la révélation, c'est le moment clé où on dit, le quatrième pouvoir, la presse peut contribuer à destituer un président des États-Unis, la plus forte démocratie, etc., etc. À partir de là, l'American Enterprise et d'autres think tanks très conservateurs, etc., qui donc soutenaient Nixon, ont considéré que la presse devenait un ennemi. Ce n'était plus simplement un acteur du jeu démocratique. Et ils ont commencé notamment à financer énormément d'études de, j'allais dire, de collègues américains sur la dénonciation de ce qu'ils appellent le liberal bias, le biais libéral. L'idée que les médias sont forcément de gauche, sont forcément gauchistes. Ça a commencé dès la fin des années 70 et pendant les années 80. Et après, ça a été importé notamment par Nicolas Sarkozy en France. C'est-à-dire tout ce discours qui consiste à démonétiser la parole journalistique en disant que les journalistes sont des bobos, sont des gauchistes, sont déconnectés de la réalité des gens, sont des élites, etc. Et à partir de là, il y a eu un emballement, si vous voulez, dans tous les camps, y compris maintenant Monsieur Mélenchon à l'extrême gauche, etc., d'une dénonciation politique, je voulais dire, du travail journalistique. Et je pense que c'est de là que naît cette violence verbale contre les journalistes.
Gilles nous appelle de Douala au Cameroun. On est en train de l'appeler. Bon, il veut intervenir, il faut se dépêcher parce que dans deux minutes, on n'a plus l'antenne. Qu'est-ce qu'il en sort là? Ah, ça y est, on l'a au téléphone. Bonjour Gilles, soyez le bienvenu, vous appelez du Cameroun.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Vous êtes en direct.
Ah bah oui, non, je disais, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je disais que dans votre plateau, là, apparemment, c'est que des amis. Bah, c'est, il n'y a aucun contradicteur, c'est BFM est gentil, et les gens qui trouvent que les médias se comportent bizarrement, bon, c'est idiot. C'est ce que moi je voulais dire.
Que des amis.
Alors,
il y a un universitaire hein, qui n'est pas l'ami des journalistes, hein, qui
toujours,
est chercheur.
Des fois, on me le reproche.
Et puis, effectivement, comment parler de la haine contre les journalistes sans inviter BFM TV qui a cristallisé
cette
exaspération.
On est tout à fait lucide là-dessus. Et je vais vous dire, notre grand débat national, puisque c'est l'expression à la mode en ce moment ici, il a lieu à BFM TV. Parce que nous aussi, on a eu une fronde. Nous aussi, on a dit ça suffit, les violences des Gilets jaunes, mais on se posait aussi des questions sur notre façon de traiter l'actu. Précisément sur la marche pour le climat, on était pour certains assez en colère de ne pas en avoir parlé beaucoup plus. Et on est en train de discuter en ce moment sur la façon dont on fait notre métier et on est absolument critiquable.
C'est l'aspect positif d'ailleurs finalement de cette haine, de ce déferlement de colère contre les journalistes. Et peut-être qu'il va en sortir une réflexion, une distance aussi par rapport à de vieilles habitudes.
Oui, ce qui est clair, c'est que ça, cette haine et c'est la façon dont elle s'est manifestée a créé un débat. À Reporters sans frontières, on a rassemblé autour de la table des présidents de SDJ, des responsables
Société
de médias, des journalistes eux-mêmes victimes d'attaques, etc., pour mener cette réflexion et essayer de comprendre. Alors, nous, on fait un petit peu office de contradicteur, si je peux me permettre, parce que justement, on appelle à une déontologie, au respect d'une déontologie, à un journalisme qui respecte des règles, et donc on n'est pas censeur, mais on contribue à cette réflexion. À Reporters sans frontières a vraiment lancé des initiatives. Donc, je crois que le travail d'introspection se fait dans chaque média, y compris à BFM. Voilà, la réflexion est lancée et il faut voir justement ce qui va se produire après.
Gilles, qu'est-ce que vous aimeriez dans l'idéal voir dans les médias que vous consultez?
Non, c'est que moi je voudrais qu'il y ait quand même, qu'on voit tous les avis. Je vous prends un exemple. Pour les Gilets jaunes, on ne vous parle que des quenelles. On ne vous parle pas des messes qui se passaient, des messes contre, voilà, qui avaient sur les places, là, les curés qui mettaient sur la messe. On vous parle des quenelles, on vous parle de l'ambiance antisémite seulement. C'est ça. Et on sait que ce n'est pas un groupe d'antisémites seulement. Il y a des idiots là-bas, mais il y a aussi des gens très bien.
Tout à fait. Bien sûr, Gilles, merci beaucoup de nous avoir appelés. Effectivement, probablement que vous êtes aujourd'hui dans une forme d'autocritique, hein, vous le disiez. Mais est-ce que finalement, la défiance du public, de votre public, des citoyens, des usagers à l'égard de la presse, va pousser à faire naître un nouveau type de média autrement ou pas, Patrice Hausse?
On va essayer, on réfléchit beaucoup. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est avec le titre de votre émission qui est la haine et la violence. C'est-à-dire qu'on est tout à fait critiquable, on est ouvert au débat, on peut recevoir toutes les critiques, mais il y a déjà un point de départ, c'est pas de violence. Le reste, on peut discuter.
Merci à tous les trois, Pauline Hadès-Mével, Patrick Sauss, et merci à vous, Arnaud Mercier. À demain.